nuit de France Culture. Jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Elle n'a pas prononcé que la formule célèbre, fût-ce à de nombreuses reprises, « Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Loin de là. Et vous en aurez la preuve au cours de l'émission qui suit. Cinéma, théâtre, écriture. Anna Karina chez Godard, Anna Karina chez Kukor, Anna Karina chez Rivette. 2 heures pour être dans la vérité de ce que jouait Anna Karina dans les années 60 et suivantes. Le bon plaisir d'Anna Karina par Florence Marguier. Réalisation Daniel Fontana Rosa. Première diffusion sur France Culture le 31 janvier 1998.
Non.
Anna, Karina.
Signe astrologique.
Alors là, c'est pas clair, hein, c'est pas net, parce que ma mère prétend que je suis née un 22 septembre, et mon grand-père m'a dit que je suis née un 23. Comme c'était pendant la guerre, en 40, c'était pas tellement un problème à l'époque d'être déclaré un dimanche ou un lundi. L'important, c'était d'être vivant, quoi. Mais après tout, qu'est-ce que ça change ? Enfin, ça change que je ne peux pas savoir si l'avenir me réserve ceci ou cela.
Signe astrologique, donc.
D'ailleurs, je m'en fous parce que je n'aime pas savoir.
Taille.
1m74.
Couleur des yeux.
Plus foncé, je crois. Enfin, ça dépend. S'il y a du soleil, c'est un peu plus clair.
Bleu Velasquez ?
Je ne sais pas.
Signe particulier.
Je veux dire un truc complètement abstrait, c'est que les gens me croient toute petite. Peut-être parce que j'ai une petite tête finalement, avec un très grand front. La plupart des gens, je veux dire, qui ne me connaissent pas bien sûr, enfin, qui m'ont vu au cinéma, et ils croient toujours que je suis la petite Anna.
Pas mal du tout. Pas mal du tout. Demain, je saurai leur couleur exacte.
Franchement, vous croyez que je peux faire du cinéma ?
Denis Berry.
Elle se déplace comme un chat, on a l'impression qu'elle danse sur les trottoirs en se déplaçant avec une très grande légèreté.
Daniel Debals.
Anna Karina a d'abord été un visage, peu à peu elle est devenue un corps.
Eduardo Manet.
Ce qui la caractérise, c'est que c'est un vrai écrivain.
Moi, je suis anormale, si c'est ça que vous voulez dire.
Patrick Modiano.
Et évidemment, ce qui était troublant, c'est que je retrouvais dans certains films les gestes de la vie qu'elle avait, la manière de fumer, de prendre sa cigarette, tout ça.
Jean-Bernard Pouy.
Un jour, par hasard, je l'ai rencontré chez les amis et je lui dis « Mais regarde ce que j'ai !» Clac, et je sors la photo d'Anna Karina dans mon appart que j'avais toujours sur moi.
Jackie Rénal.
Elle supporte beaucoup le maquillage. Puis elle adore ça.
Françoise Vernet.
J'avais pas envie d'éditer Anna Karina, mais j'ai été surtout fasciné par ce manuscrit, parce qu'il avait de l'actuel et de moderne.
Ouais, pas mal. Oh, comment pas mal? On m'a dit, tu veux rire? Mais elle est terrible!
Pour le bon plaisir d'Anna Karina.
Là, il y avait une dame qui dit « Oh, elle est très mignonne, cette petite. » C'était Coco Chanel. Et elle m'a dit « Comment tu t'appelles, mon petit ?» J'ai dit « Je m'appelle Anne-Karine Bayer. » J'ai dit « Anne-Karine Bayer, tu t'appelleras Anna Karina. » J'ai dit « Mais c'est génial. » Tout d'abord, quand j'étais toute petite, je jouais toujours, je dansais, j'étais toujours sur la table, je faisais le spectacle. À l'école, c'était pareil. Le clown. Souvent des compositions, d'ailleurs. Parce que, comme je ne me trouvais pas belle, je me trouvais moche et tout. J'essayais de faire des trucs insensés. J'imitais Louis Armstrong. Je faisais la sorcière ou des choses comme ça. Et de toute façon, je voulais aller, quand j'étais petite, je voulais être aventurière. Parce qu'aventurière, pour moi, voulait dire, quand j'étais petite, de jouer, de voyager avec des caravanes comme ça, et puis jouer sur des places publiques et s'amuser, quoi. Et voyager, traverser, prendre les bateaux. J'ai toujours voulu partir.
Elle ressemble aux saltimbanques, elle ressemble à tous ces gens qui vivraient dans des roulottes et qui iraient de ville en ville jouer et raconter des contes les uns pour les autres. Il y a quelque chose d'une tradition des saltimbanques qui s'incarne dans sa silhouette et sa démarche, avec quelque chose de nostalgique, avec un spleen. Et puis tout d'un coup, ce spleen se métamorphose dans quelque chose d'enjoué, de très gai dès qu'il y a une rencontre.
Donc, je suis partie pour de vrai. Ben, je me suis très bien débrouillée. Puis j'ai dit, je vais aller en France, à Paris. J'adorais Paris, j'avais tout lu sur Paris. Je connaissais toutes les vieilles chansons. Je connaissais toutes les chansons de Piaf, de Damien. J'ai appris le français comme ça d'ailleurs. Et au cinéma aussi, non-stop.
Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là. Je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir flambant qui fait de l'effet. Une fleuriste qui vend ses fleurs.
J'habite à Saint-Germain-des-Prés. J'y vais sur le pont Neuf, je regarde la Seine. J'aime bien parler avec les gens, que ce soit un peu partout. Même que je connais les clochards de mon quartier, je suis assez. Mais je connais un peu tout le monde parce que ça m'intéresse. Et ça, ça m'aide à vivre aussi parce que je crois que si on ne s'intéresse pas aux gens, on n'a plus aucune raison vraiment d'exister.
Anna Karina, vous êtes connue principalement comme actrice de cinéma. On vous a vu récemment au Théâtre de la Renaissance dans une pièce d'Igmar Bergman. Vous chantez. Mais ce qui est peut-être plus inattendu, c'est que vous écrivez également. Alors, jouer la comédie, chanter, écrire, semble être pour vous une même aventure vécue sous de multiples facettes que vous avez préféré pour ce bon plaisir nous livrer dans la proximité de la confidence. Dans cette recherche d'être toujours au plus près de ce qu'est la vie, de ce que vous êtes véritablement. Vous avez écrit, par exemple, en 1988, cette histoire « On n'achète pas le soleil », où l'on rencontre un petit garçon qui vit dans un quartier bien particulier de Marseille, puisque c'est le quartier des Dominicaines, décrit avec un très grand réalisme.
Je suis allée, bien sûr, et puis et ça me paraît tout à fait normal. Je ne vais pas placer les rues là où ça n'existe pas. Je ne vais pas placer l'action là où c'est pas... C'est évident que je me suis intéressée, je me suis promenée pendant des semaines.
Marchez beaucoup.
Oui, et puis j'ai d'ailleurs eu une maison à la gare de Fresnay. J'allais souvent à Marseille. Et c'est une ville que j'aime beaucoup. Et puis j'ai aussi mon petit personnage qui s'appelle Solo dans On n'achète pas le soleil, mon deuxième roman. Il est mulâtre, donc il a un père blanc. Il avait une mère noire. Je dis il avait parce qu'elle est morte. Et puis on découvre petit à petit que finalement c'est son papa qui a fait de la prison, qui a tué la mère de Solo. Donc Solo finit par tuer son père à la fin. Bon, vous allez me dire que je ne suis pas un petit mulâtre, mais c'est quand même moi Solo quelque part, puisque je l'ai inventé.
Oui, l'écriture, c'est un moyen de vous dévoiler peut-être, non?
Mais forcément, oui. Mais est-ce que les gens... Non, je ne pense pas que les gens ne se rendent pas compte, je ne crois pas. Parce que de la part d'une comédienne, de toute façon, qu'est-ce qu'on veut ? On a envie qu'elle raconte sa vie. Donc moi, ma vie, une partie de ma vie, je mets dans mes livres. Mais très discrètement, je veux dire. Et puis déguisée, si vous voulez. Parce que
par
je préfère
pudeur,
que ça
Anna,
soit... Par pudeur aussi. Parce que... Évidemment, j'ai beaucoup de choses à raconter, mais j'ai peur aussi de si je le fais, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Je veux dire la vérité. Et si je dis la vérité, j'ai peur de blesser beaucoup de gens. Enfin, si je dis ma vérité, je m'entends. Hein. Donc, je préfère, enfin, du moins pour le moment,
travailler en oblique.
Voilà, exactement.
En fait. Oui. Mais alors, ce que je trouve dans ces romans, c'est que il y a beaucoup de tendresse.
Oui, j'ai de l'amour pour mes personnages, mais ça ne m'empêche pas d'avoir aussi de l'humour parfois. Et parfois, peut-être aussi d'être un peu dire la vérité, je veux dire, tel que.
Avec des mots de tous les jours.
Voilà, avec des mots crus, des mots souvent un peu argotiques, tel que les gens parlent dans la vie, je veux dire. Moi, ce que j'essaye de faire à tout petit niveau, parce que j'ai aucune prétention, bien sûr, c'est de faire un petit témoignage, quoi. Voilà, un petit témoignage de vie, quoi.
Le week-end, je suis restée réfléchir dans ma chambre. Celle-ci donne sur une courette et des pigeons font du bruit. Pas autant que les putes du bar d'à côté. Pour monter avec leurs clients dans un hôtel miteux, elles doivent d'abord passer par notre courette commune. Et pour tout savoir sur elles, je n'ai qu'à appuyer ma tronche contre ma vitre.
Denis Méry.
Et là, vraiment, l'écriture qu'on voit dans les petites filles à l'école qui veulent être des bonnes élèves. Et là, à côté, dans tout ce qu'elle fait, où elle veut toujours faire pour le mieux, mais un peu comme une enfant qui aurait peur que si elle fait mal, on va lui reprocher tout. le père qui l'a abandonné, la mère qui l'a pas bien aimé. C'est-à-dire que cette blessure originelle d'être une enfant mal aimée, abandonnée du père, est devenue un besoin de perfectionnisme.
Voilà, ma grand-mère est morte, j'avais 4 ans. Et puis, j'étais un peu en pension et j'ai vécu un peu avec ma mère. Et puis, ma mère avait sa vie. J'ai vu mon père en tout, mon vrai père. Je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Une fois à 4 ans, je ne me rappelle pas. Franchement, je ne me rappelle pas. Une fois à Londres, avec Jean-Luc Godard, où je tournais un film... Ça s'appelait « She'll have to go ». Ça veut dire « Il faut qu'elle parte ». J'ai joué une Corse dans un film anglais. « She'll have to go ». Avec Bob Mankhouse et Alfred Marx. Voilà, je me rappelle très bien encore. Et puis, mon père, il avait lu dans le journal que j'étais à Londres. Et comme il était capitaine de long cours, il m'a téléphoné. Il m'a dit « Je vais prendre un bateau à Liverpool ». Et je suis à la... Est-ce que tu peux me voir demain à la gare ? Et moi, j'étais tout ému. Et on est parti avec Jean-Luc à la gare. Et j'ai vu mon père. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est... Tu manques un bouton. Et j'ai tellement paniqué, j'ai dit... Mais c'est tout ce que tu as à me dire au bout de 18 ans ? Je manque un bouton. J'ai dit, mais j'ai manqué de... J'étais en manque de père toute ma vie, enfin jusqu'à 18 ans, et toi tu me dis, tu manques un bouton. Et tout ça en danois. Il m'a dit, oui, il a pris de très haut, peut-être parce qu'il était pareillement, que... ça j'ai compris après, peut-être qu'il était intimidé lui aussi. Hein. Mais quand même, je l'ai pris, avec ma jeunesse, je l'ai pris très mal. Alors je lui ai dit, mais écoute, si c'est ça que tu as à me dire, j'ai dit, regarde bien autour de toi, regarde ce mec qui se promène là, regarde les gens autour de toi, et ben t'es pas plus mon père que tous ces gens-là. Évidemment, le temps que je l'ai dit, je l'ai regretté, hein, c'est sûr. Mais c'était dit, et puis je suis mise à pleurer, et je suis partie, et lui aussi, et voilà. Ça, c'était la première fois que j'ai vu mon père. Et puis le temps passe, et puis je me trouve à Barcelone à peu près 5 ans plus tard. J'ai 23 ans maintenant. Je me trouve aussi dans un grand hôtel, il y a ma photo dans le journal et tout, parce que bon, j'ai quand même une star, elle est un peu... Bon. Et je reçois un coup de fil à l'hôtel. C'est ton père. Et est-ce que tu veux me voir? Je suis dans le port. Est-ce que tu veux déjeuner avec moi? Je suis un peu bouleversée, parce que c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup vu son père et que ça arrive comme ça, je dis ah oui. Et puis bon, je déjeune avec lui dans le port. Et je le trouve d'une très grande intelligence, je le trouve merveilleux, je le trouve fantastique. On se parle, mais alors c'est comme vraiment, il me dit, tu sais, dans la vie, il y a des choses. Ta mère a un peu fait, elle a un peu fait le mur et tout, si bien que j'ai pas pu te voir. Et puis quand on s'est vu à Londres, eh ben, j'aurais pas dû dire ça et tout. J'ai dit, non, c'est moi qui aurais pas dû dire ça. Et puis finalement, je trouve que mon père est absolument, d'abord, il est beau comme un dieu. Du style de Gary Cooper, très grand. Il parle toutes les langues. Il dit des choses formidables. Il me dit, tu sais, maintenant, toi et moi, c'est pas trop tard. T'as 23 ans. On va se connaître. On va apprendre à se connaître. On va se parler. On va se voir. On va s'écrire. Enfin, je vais t'écrire, il me dit. J'ai dit, oui, d'accord, mais moi aussi, je vais t'écrire. Alors, donne-moi ton numéro de téléphone et puis donne-moi ton adresse. Elle m'a dit non, ça se peut pas, parce que tu comprends, je suis remariée, ma femme est très jalouse, c'est pas possible. Et j'ai dit, mais quand même, je suis ta fille, je peux t'écrire. Elle m'a dit non, mais moi je vais t'écrire. Elle m'a dit, moi je vais te téléphoner. Et puis, il m'a jamais téléphoné, j'ai jamais plus eu de nouvelles, quoi. Alors ça m'a fiché un coup.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Vous avez appris le français en chantant, mais alors quels étaient les auteurs favoris de votre répertoire à l'époque?
Oh, il y avait tout. L'autre côté de la rue, toutes ces belles chansons, toutes les chansons de Damien, de Fréhel. Mais c'est pas du tout mon époque, hein, quand même. Hein. mais toutes ces chansons sublimes, de la vraie chanson française, quoi. Et puis au cinéma, j'allais voir des films avec Capin. Et puis je restais toute la journée. Et puis quand je voyais qu'il levait la main comme ça et qu'il frappait dans le vide vers l'autre, je comprenais qu'il voulait dire va te faire foutre, et je comprenais ce que ça voulait dire, ou va-t'en. Et quand Gérard Philippe disait pour la 15e fois que je l'avais vu depuis 2 ou 3 jours le film, qu'il disait bonjour, qu'il serrait la pince, je comprenais que ça voulait dire bonjour, quoi. Je veux dire, j'apprenais comme ça. Et puis j'assistais, et c'est vrai que visuellement, et comme ça articulait plutôt bien entre Gérard Philippe et Gabin dans le côté argotique et l'autre dans le côté strict français, c'était pas mal, quoi. Alors, au revoir monsieur, alors ce qu'on faisait, au revoir madame, salut, alors tu reprenais plein de trucs comme ça.
Moi j'ai pas une voix basse.
Moi j'ai pas une voix basse.
Tu peux parler, tu ne sais même pas prononcer les R.
Moi je sais très bien.
Lamentable.
Pourquoi c'est toujours les femmes qui souffrent?
Parce que c'est elles qui font souffrir.
Vous avez suivi des cours
de théâtre? Oui, j'ai pris des cours aussi.
Il n'y avait pas que le cinéma et la chanson.
Non, j'ai pris, bien sûr, aussi parce qu'on me demandait assez vite de faire du cinéma. Bon, d'abord, j'ai fait ce petit film au Danemark, un moyen-métrage, où je joue le rôle principal, où j'ai quand même fait des essais et tout. J'avais 15 ans, même pas 14 ans et demi. Et à cette époque-là, bon, donc il n'y avait pas beaucoup de rôles. Donc j'ai fait beaucoup de figurations aussi, J'ai fait beaucoup de métiers, j'ai des filles d'ascenseur, j'ai fait de l'illustration, chez un peintre, et puis je suis partie. Et puis quand je suis partie, j'ai fait aussi des photos pour gagner ma vie. J'ai rencontré par hasard, ou de magot, Catherine Harlet, qui m'a demandé de faire des photos. Alors j'étais un peu méfiante parce que j'avais un peu peur. C'était à l'époque où on envoyait des jeunes filles en Amérique du Sud par le bateau. Et mon grand-père m'a dit, tu parles pas aux étrangers, hein. Alors d'accord, j'avais cette petite voix de mon grand-père que je l'ai toujours dans ma tête et qui résonne parfois en me disant, non Anna, non, ça tu ne le fais pas Anna, non, non, tu t'arrêtes. Et donc, j'ai dit à cette femme, vous voulez faire des photos de quoi? En anglais, tout ça. Elle m'a dit, mais des photos de mode. J'ai dit, mode, mais quel genre de mode, quoi? Elle me sort des noms, Cardin, machin, truc, moi je connaissais rien. Je savais pas, j'étais pas au courant. C'est pour Jour de France. Elle m'a dit, Jour de France, je connaissais pas non plus, j'avais pas de blé pour acheter des magazines.
Et puis j'ai dit aussi, vous venez avec beaucoup de gens. Parce qu'elle dans ma tête, s'il y avait beaucoup de monde, elle ne pouvait pas me faire du mal. Et elle est venue, effectivement, il a rigolé, il a ri, bien sûr. Il a dit, bon, mais il est venu avec le photographe. Elle est venue avec photographe, bien sûr, la costumière, maquilleuse, quoi. Enfin, il y avait le coiffeur, il y avait le photographe, l'assistant. Ils étaient 7, 8, 9, je ne sais pas. Et puis, on est parti faire des photos. J'ai gagné 9000 francs anciens, c'est-à-dire 90 francs. Ce qui était énorme pour moi, c'était beaucoup d'argent. À l'époque. Il a dit, je ne peux pas te payer de suite. Non seulement tu n'es pas trop doué, parce que tu ne peux pas rester immobile. Je bougeais tout le temps. J'ai dit, mais c'est parce que je vais faire du théâtre, du cinéma. Il a dit, bon, mais je vais t'envoyer voir avec tes photos chez Madame Lazareff, Hélène Lazareff. Là, il y avait une autre dame qui a dit, oh, elle est très mignonne, cette petite. On m'a coupé les cheveux, on m'a maquillé, tout ça. Et c'était Coco Chanel. Et elle m'a dit, comment tu t'appelles, mon petit? Dans ce style-là, quoi. J'ai dit, je m'appelle Anne-Karine Bayer. J'ai dit, Anne-Karine Bayer, tu t'appelleras Anna Karina. J'ai dit, mais c'est génial.
J'avais rencontré comment Patrick Modiano, Anna Karina?
Oui, je l'ai rencontré quand j'avais 18 ans, alors ça remonte à 63, oui, 63. Parce que la dernière pièce de Giraudoux qui s'appelait Pour Lucrèce avait été montée par Bourseiller pour être jouée au cours d'un festival en Bretagne, mais très peu de fois, je crois, 3 ou 4 fois. Enfin. Et alors, elle jouait dedans, ma mère joue aussi dedans, et je crois même qu'elle est. Que Godard avait suivi cette tournée. Pour s'amuser, il avait même joué un petit rôle dans la pièce. Enfin, mais c'était au retour de ce festival de Bretagne qu'elle est venue à la maison et c'est comme ça que je l'ai connue. Et alors, bizarrement, quand je l'ai rencontrée, je n'avais vu encore aucun de ses films parce que le Petit Soldat qu'elle avait tourné bien avant avait été interdit par la censure et je crois qu'on ne pouvait pas encore le voir. Et les deux premiers, le film de Deville et Une femme est une femme, étaient sortis l'année précédente et j'étais pas à Paris, alors j'avais pas pu voir ces deux films. Et le premier film que j'ai vu d'elle, presque à peu près en même temps que je l'ai connu, c'était Vivre sa vie. C'était très étrange comme impression, enfin, une impression que la réalité se confondait avec le cinéma. Ils habitaient. Dans une petite rue qui donnait sur les rues Soufflot. Et moi, j'étais dans un lycée. Je la rencontrais à plusieurs reprises. Elle m'a emmené plusieurs fois quand elle tournait au studio de Saint-Maurice, tout ça. Enfin, ça m'avait beaucoup ému aussi.
Quand on photographie un visage, regardez-moi. On photographie l'âme qui est derrière.
Elle avait les yeux cernés. Ils étaient gris Velasquez.
Où est-ce que vous voulez que je me mette?
N'importe où. Oh, n'importe où, ça m'est égal, ça n'a pas d'importance. Vous faites ce que vous voulez, moi je vous photographie. Vous avez l'air d'avoir peur, pourquoi?
Oui, j'ai peur. Je trouve que c'est comme si la police m'interroge.
Elle était moins belle qu'hier après-midi.
La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Alors, la toute première fois que j'ai rencontré Jean-Luc, j'ai reçu un télégramme. J'habitais à l'époque rue Passanon, dans le 8e. J'habitais au 4e, au 2e, et il y avait Christian Marquand qui habitait là. Il y avait aussi Astruc, le metteur en scène. Et puis il y avait Marlon Brando, quand il venait à Paris, il habitait là aussi. Donc je rencontrais Marlon Brando dans les escaliers. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Et c'est là où j'ai reçu un télégramme de Jean-Luc Godard qui m'a demandé de venir le voir au bureau pour un petit rôle.
Voilà. Il m'avait vu dans un film publicitaire, je ne sais pas lequel, parce que j'avais tourné deux. J'avais fait Mon Savant et j'avais fait Palmolive en même temps. Et Slack, comme j'étais mineur, ils ont voulu me faire un procès, mais ils n'ont pas pu rien faire parce que j'étais mineur. D'un côté des Champs-Élysées, il y avait Mon Savant avec la même fille. De l'autre côté, il y avait Palmolive. J'ai vendu les deux savants en même temps. Alors, j'ai reçu un télégramme de Jean-Luc Godard. Et me dit, voulez-vous venir vous présenter au bureau chez Georges de Beauregard, qui était devenu un très grand producteur de cinéma par la suite. Il me voit, il me regarde, il me dit, c'est d'accord, vous avez le rôle, il faut vous déshabiller. J'ai dit, moi, je ne me déshabille pas. Il dit, mais quoi ? Il dit, je vous ai vu au cinéma, là, dans le film publicitaire, là. À poil, nu. J'ai dit, mais pas du tout. Vous savez, c'est dans la tête que vous avez, c'est dans votre imagination. Si vous regardez bien le film, que ce soit d'un côté des Champs-Élysées ou de l'autre, je suis couverte de mousse jusqu'au cou, j'ai même un maillot de bain et presque un manteau de fourrure. Tant de mousse, alors. Vous voyez juste un petit bras qui dépasse, un petit bout de jambe et c'est tout. J'ai dit, ah bon? Il me fait, j'ai dit oui, mais vous ne voulez pas vous déshabiller? J'ai dit non, je ne me déshabille pas. Et je suis partie. C'était pour un tout petit rôle. Hein. C'était pour le rôle de Liliane David, parce qu'elle s'appelait comme ça à l'époque. Après, elle est devenue Liliane Dreyfus. Et c'est celle qui se déshabille, qui on voit ses seins, et puis Belmondo lui prend 50 francs. Voilà. 50 000 balles, comme on disait à l'époque. 50 francs aujourd'hui.
Il avait ses lunettes.
Ah, il avait ses lunettes noires, bien sûr. Donc le temps passe, 3 mois à peu près. Et en même temps, on répétait Le Petit Prince avec Sadie Rebaud et il y avait aussi Claude Brasseur. Et c'était moi, Le Petit Prince. Bon.
Le Grand Prince.
Ouais, c'était comme ça. Bon, c'était sympa en tous les cas. Et je reçois un autre télégramme qui me dit, cette fois-ci, mademoiselle, c'est peut-être pour le rôle principal, signé Jean-Luc Godard, et toujours chez Georges de Beauregard. Je dis, ça c'est encore un mec qui veut me draguer, parce que j'avais oublié le nom, moi, entre-temps. Alors on me dit, mais t'es complètement folle, Jean-Luc Godard. Il vient de tourner un film avec un pote à nous, qui s'appelle Jean-Paul Belmondo. ça s'appelle À bout de souffle, avec Ginsberg. J'ai dit, quoi? Mais c'est pas un monsieur avec des lunettes noires? Ils me disent, mais très, oui, oui, Jean-Luc Godard. Ils me disent, le film n'est pas encore sorti, mais j'ai dit, mais il faut aller le voir tout de suite, disent les copains. Alors, j'y vais. Et alors, il me regarde comme ça, il dit, ah, c'est parfait, venez signer votre contrat demain. Alors, je lève le doigt, j'ai dit, s'il vous plaît, si. Faut se déshabiller. Mais non, pas du tout. Il me fait, c'est pas un film politique. J'ai fait, politique? Moi, un film politique? Mais vous rêvez ou quoi? Vous n'y pensez pas? Je ne connais rien à la politique. Je ne peux pas tenir un discours politique, moi. Il dit, vous ne vous occupez de rien. Il n'y a qu'à faire ce qu'on vous dira. J'ai dit, mais je ne peux pas signer demain parce que je suis mineur. Elle dit, mais venez avec votre maman. Mais moi, j'étais fâchée avec ma mère, puisque j'étais...
Elle était au Danemark.
Mais oui. Alors, ma mère, elle a quand même pris, je crois qu'elle a pris le train, je ne sais plus. Et elle est venue signer le contrat.
J'ai du toit, joli sein, des yeux d'améthyste, un tout petit col marin. Et un slip de je déteste des corps, on me réveille trop tôt, mais j'adore quand on me caresse dans le je ne suis pas sage,
Je suis très cruelle, mais aucun en enrage, parce que je suis très belle.
Jean-Bernard Pouy, vous avez été marqué dès votre adolescence par la Nouvelle Vague.
C'est vrai qu'à 15 ans, quand on découvre Jean-Luc Godard, par rapport à tout le cinéma qu'on essayait de voir, moi j'étais Henri IV, donc j'étais Quartier Latin, donc dès qu'on avait un peu de temps, on allait au Cinoche, on allait au Champeau voir des vieux films, alors on commençait à voir les films de Bergman, tout ça, c'est-à-dire ce qui pouvait être le cinéma d'auteur. Bon, la Nouvelle Vague est arrivée là-dessus, et Anna Karina s'est trouvée là, c'est-à-dire s'est trouvée à ce moment-là, comme héroïne, parce que bon, c'est un cinéma quand même, faut pas oublier, on parle de Godard comme un cinéaste intellectuel, comme un cinéma de recherche, comme quelqu'un qui réfléchit, mais enfin c'est quelqu'un d'essentiellement amoureux du cinéma et amoureux des femmes, et c'est pas un hasard si ça commence avec la petite américaine, et qui est Brigitte Bardot, et qui est Jane Fonda plus tard, et ainsi de suite, donc il est très très intéressé par les femmes, mais par l'amour qu'il porte aux femmes, et le fait qu'il ait vécu avec Anna Karina est un, je dirais pas que c'est un plus, mais ça sent, c'est-à-dire qu'on sent que d'abord il est amoureux d'elle, d'abord ce qu'elle raconte, c'est-à-dire elle dit que Godard pour elle n'est pas un intello mordoré, c'est quelqu'un qui est capable de marcher sur les mains ou de faire un saut périlleux. Bon, je pense qu'on ne peut pas filmer quelqu'un comme il l'a fait si on n'est pas éternellement amoureux, puisque cet amour ressurgit sur les spectateurs. Et nous, jeunes, on était amoureux d'Anna Karina comme des dingues.
En tout cas, moi, je trouve très laid une femme qui pleure.
Moi, je ne trouve pas. Au contraire, c'est très beau une femme qui pleure. On devrait boycotter toutes les femmes qui ne pleurent pas.
Mais alors, Jean-Luc Godard avait fait paraître une petite annonce. C'était...
Il avait effectivement mis une petite annonce dans le film français, ou je ne sais pas, avec Truffaut, pour voir des jeunes filles. Mais moi, jamais j'avais vu ça. Mais évidemment, comme c'est moi qui a eu le rôle et a signé, tout le monde a dit que j'ai connu Jean-Luc par petite annonce. Et la petite annonce disait quelque chose dans le style « Cherche interprète et âme sœur ». Alors moi, j'avais tout de suite compris que c'était péjoratif. Enfin, que ça voulait dire quand même quelque chose de bizarre. Alors, comme ça a été publié dans François, un article sur moi, où disait Anna Karina, nouvelle interprète et âme sœur de Jean-Luc Godard, et petite annonce et tout ça. Et je lis ça dans le journal, et je téléphone au bureau, j'ai dit, ah non, non, mais je ne fais plus le film, hein, je ne suis pas une putain. Je ne vais plus faire le film, je dis, c'était comme ça. Toujours la petite voix de mon grand-père. Quoi ? Ah, ma soeur, machin, truc, je connais, j'ai vu ce monsieur deux fois, ça va pas la tête, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Et j'ai fait la morte. Ça, je l'ai toujours fait depuis toute petite. Quand je me fâchais, quand j'étais gosse, je pouvais rester 3 semaines sans parler, et je parlais à personne. Et vous pouviez me taper dessus, me frapper, me faire ce qu'on voulait, je ne parlais plus.
Fini.
Je ne parlais plus, je ne l'ouvrais pas. J'étais bouche cousue, quoi.
Mais alors avec Godard, comment ça s'est passé?
Ah, j'ai dit... Oui, alors comme je ne répondais plus au téléphone non plus, je raccrochais. Et ben, il est venu avec 50 roses rouges et il est venu frapper à ma porte. Il est venu s'excuser. Et d'abord, il m'a envoyé un télégramme, un autre télégramme qui disait « Quand on est un personnage de Hans Christian Andersen, on n'a pas le droit de pleurer. »
Adieu, Camille. Retourne à ton couvent. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites et orgueilleux. On s'est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais et quand on est sur les bancs des attentes, on se retourne pour regarder un minet. On se...